Vous êtes toujours dans Marque-Page, nous sommes toujours en compagnie de Raymond Hisse et toujours Lucas à la technique. Et avec notre invité maintenant, nous allons parler de la cour de l'imaginaire. Vous savez que cette manifestation, ce café littéraire se déroule après-demain, de 16h30 d'après-demain samedi 7 novembre, Les Arts de 16h30 à 18h30. Et donc, nous allons découvrir cette manifestation toujours avec Raymond Hisse. Il m'a bien fait comprendre au moins, en tout cas, la différence entre fantasy, fantastique et science-fiction. Alors, pendant la pause musicale, Raymond, vous expliquiez que la déferlante de la fantasy dans la littérature en France, ça avait mis de côté la science-fiction. Puis je retiens aussi que vous êtes membre de plusieurs jurys littéraires. Et donc, ce café littéraire, c'est un des jurys dont vous êtes responsable.
Oui, c'est-à-dire que la cour de l'imaginaire, c'est en fait, sous un titre assez solennel, est composée de trois personnes, en l'occurrence Nadia, Josette et moi. Nadia étant une écrivaine de science-fiction qui habite l'agglomération d'Ancienne, Josette est mon épouse et donc moi-même. Et à l'initiative donc de Nadia Harley, nous avons créé ce collectif en 2011 et qui visait à rassembler les manuscrits relevant des domaines de l'imaginaire, donc SF, fantasy, fantastique, sans exclusive, et à permettre, en principe, ça s'adresse souvent à des auteurs débutants, même si ce n'est pas exclusif non plus, qui leur permettent d'être édités. Donc on avait passé au départ un partenariat avec un éditeur de Nîmes, les éditions Lacour, qui n'est pas du tout un éditeur de littérature de l'imaginaire, mais qui avait accepté, qui nous avait donné carte blanche pour publier des ouvrages dans une collection. Et du coup, le collectif s'est appelé La Cour de l'imaginaire, évidemment.
La Cour, là, ça me rappelle quand même, c'est un vieux souvenir, ça, parce que c'est un boulanger qui a créé ça, à Nîmes. Autrefois, c'était revenir au principe qu'on pouvait trouver des livres, il y a très très longtemps, chez les boulangers, etc., etc. Et c'est comme ça que l'idée est partie de Nîmes. Alors, il y a des choses qui ont été écrites sur l'histoire de la Lorraine, par exemple, qu'on trouve également chez La Cour.
Oui.
Et c'est, vous êtes enfilé.
Il a un système de distribution et de diffusion assez particulier, c'est-à-dire qu'il est, c'est une dynastie qui remonte à des colporteurs du 18e siècle.
Oui, c'est ça.
Qui se sont transformés en libraires puis en éditeurs. Et il a repris un petit peu la tradition des colporteur, c'est-à-dire qu'il parcourt la France et il a des dépôts dans des endroits qui ne sont pas forcément des librairies et il fonctionne de cette manière, quoi. Donc c'est un éditeur un petit peu atypique mais qui publie énormément de livres qui republie en général des livres introuvables. Donc avec nous c'était tout à fait différent puisqu'il s'agissait de livres nouveaux dans une collection d'imaginaire. Donc on a commencé cette opération en 2011, donc on a fait un appel à des manuscrits, on a reçu un certain nombre. On s'est aperçu, souvent je savais par les milieux éditoriaux que les éditeurs sont obligés de mettre 90 ou 95% des manuscrits qu'ils reçoivent à la corbeille. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était toujours le cas. Donc sur la trentaine ou la quarantaine de manuscrits qu'on reçoit, on arrive à en sélectionner un, deux, éventuellement trois qui sont publiables. Au début, on craignait d'être obligé de publier le moins mauvais, mais on s'est aperçu qu'on a trouvé, parmi les publications qu'on a faites, on pourra en faire le détail tout à l'heure, oui. Actuellement on est à 5 titres, des ouvrages qui sont excellents, qui sont dignes d'être publiés, qui font, à mon sens, faire partie des meilleurs ouvrages du genre, et qui ont permis souvent à des auteurs débutants d'être édités pour la première fois.
Et ça fait des tirages de départ.
Alors c'est des petits tirages, c'est
500 000.
Non, 250.
250,
oui. 250, oui. Non, mais c'est un petit. Ce sont des petits contrats.
Oui.
Je précise que ce sont quand même des contrats à compte d'éditeur. Il ne s'agit pas de contrats à compte d'auteur. Donc l'auteur touche ses droits. Le livre peut être réédité. Alors depuis l'an dernier, on a changé de partenariat. On a changé d'éditeur, on a passé un partenariat avec les éditions Nereia, dirigées par Rémi Debord. Qu'on salue en passant, que les auditeurs de RCN connaissent bien. Donc le prochain ouvrage, pour lequel on sélectionne actuellement, sera publié en 2016 par les éditions Nereia. Et les auteurs amateurs qui nous écoutent peuvent encore nous envoyer leurs manuscrits jusqu'au 28 février. Donc on les reçoit actuellement. Tous les renseignements sur le règlement du concours, les tenants et les aboutissants sont sur le site de la Cour de l'Imaginaire, donc www.lacourdelimaginaire.com. La Cour de l'Imaginaire en un seul mot.
Une question sur ce point, dans pas mal de concours littéraires, une exigence est souvent émise, c'est que ce soit la première œuvre d'une auteure ou d'un auteur. Vous vous occupez pas de ça?
Non, on n'a pas d'exigence à à ce niveau. Les auteurs qui ont été publiés jusqu'à présent, il s'agit d'une première édition d'un ouvrage complet, mais c'est souvent des auteurs qui ont publié, comme moi au début, qui ont publié des nouvelles dans des revues ou dans des publications plus ou moins confidentielles, quoi. Mais bon, on sait très bien qu'un auteur professionnel va pas venir chez nous pour un tirage à 250, et c'est pas notre but non plus. Le but, c'est de mettre le pied à l'étrier à un auteur qui n'aurait peut-être pas trouvé sa place dans des éditions plus classiques et disons plus non pas plus exigeante, parce que on trouve pas mal de choses quelquefois assez médiocres, même chez de grands éditeurs. On a une exigence quand même de qualité qui fait que je pense qu'on n'a rien à nous reprocher de ce côté-là.
Ce samedi, donc, 7 novembre, de 16h30 à 18h30 au Lézard, 99 Grand Rue à Nancy. Alors, pour ceux qui sont fâchés avec les chiffres, c'est facile à trouver, c'est en face du musée Laura. Donc, quatrième édition, je viens de compter les intervalles sur mes doigts, c'est la quatrième édition de la Cour de l'Imaginaire. Et donc, jusqu'à présent, ben, fort logiquement, vous avez attribué 3 prix.
Oui.
Voilà.
On ne l'a pas attribué à 2015. Parce que tout simplement, on n'a pas trouvé d'ouvrage d'assez bonne qualité pour le faire. Ouais. Donc, on a préféré sauter une année plutôt que de publier quelque chose de médiocre. Donc, on a des exigences quand même assez, bon, disons assez dures, quoi, de ce point de vue-là. Donc, on espère qu'en 2016, ça marchera, on trouvera un auteur. Donc là, le 7 novembre, on a invité le lauréat du prix La Cour de l'Imaginaire 2014, Éric Lusseux.
Pour les tambours du vent.
Pour les tambours du vent, oui. Mais qui ne parlera pas que de son ouvrage, parce qu'il était déjà venu l'an dernier pour en parler. Mais il parlera avec... l'émission sera animée également par Pierre Stolz, qui est un écrivain de science-fiction, qui est lorrain, qui a déjà publié de nombreux ouvrages depuis très longtemps.
Il a eu le prix Fantastique Art Gérardmer, entre autres.
Fantastique Art Gérardmer, le prix Rony Aîné,
ouais, de la science-fiction.
Etc. C'est un auteur professionnel, hein, donc spécialiste dans la science-fiction, mais également dans le fantastique. Et les deux auteurs on leur a donné un thème de départ, dans le déferlement actuel de la fantasy, quelle place encore pour la science-fiction et la fantasy. Mais ils parleront aussi de leurs ouvrages, et leurs ouvrages seront d'ailleurs en vente ce jour-là.
Éric
Lusseux,
oui, L-Y-S-O, avec un trait dans le haut, il est français, il est d'origine...
Non, il est d'origine nordique, norvégienne, je crois, mais enfin, il est français, il est professeur de littérature comparée à l'université de Clermont-Ferrand.
Oui. Et donc, c'est un spécialiste du fantastique, Pierre Stolt, qu'on retrouvera samedi, un écrivain de science-fiction. Donc, on va imaginer que ça va donner un débat très, très dense et très chaud, là, parce que ça va être deux tendances qui vont s'opposer, là.
Oh, je ne pense pas à ce point-là, parce que c'est des gens qui ne sont pas sectaires, Pierre Stolt non plus. Il a écrit aussi des ouvrages qui sont à la limite du fantastique et de la science-fiction quand on regarde sa bibliographie. Mais on parlera de fantastique, de science-fiction et pourquoi pas même de fantasy, quoi.
Quelles sont les attentes des lecteurs dans ces domaines-là, c'est des lectrices, des lecteurs qui ont la même exigence vis-à-vis de leurs auteurs que d'autres genres, de leurs auteurs préférés. Comment se passent ces rencontres entre auteurs et personnes qui assistent à cette cour de l'imaginaire?
Bah, c'est les lecteurs potentiels ont la parole effectivement, mais je pense que bon, c'est difficile à dire. Moi, j'ai des contacts aussi avec des lecteurs dans les salons que je fais pour vendre mes ouvrages. Je pense que les gens recherchent peut-être une littérature d'évasion, mais une littérature qui soit quand même exigeante et qui ne recherche pas forcément la facilité, quoi. La difficulté, c'est quelquefois, quand on voit la taille des livres, beaucoup de lecteurs cherchent des ouvrages de 800 pages pour en avoir pour leur argent. Moi, je dis toujours que les ouvrages de 800 pages, jusqu'à présent, j'étais incapable d'en écrire. Et que quand on les lit, il y en aurait quelquefois 150 en moins, on ne s'en apercevrait pas, quoi. Donc,
et là, vous êtes gentil en disant 150 en moins.
Tout dépend des ouvrages. Mais bon, je sais, ayant commencé par les nouvelles, j'ai tendance à faire dans la concision quand même. Ouais. Et à ne pas m'étaler dans des descriptions inutiles. C'est-à-dire tous les défauts qu'on retrouve dans les manuscrits qu'on reçoit, c'est des gens qui font des descriptions inutiles, des digressions, etc. Donc je pense qu'il faut quand même une certaine rigueur, une certaine, il faut rester centré sur son sujet et le suivre au début jusqu'à la fin sans faire de digressions ou de descriptions inutiles, quoi. Bon, je pense que les lecteurs cherchent ça aussi quand ils apprécient un ouvrage.
Quelle est la place de ce café littéraire, donc, qui se rappelle, je le rappelle, ceux qui prendraient l'émission en route, la cour de l'imaginaire, dans l'ensemble des cafés littéraires qui existent peut-être en Lorraine? Il y en a d'autres, par exemple, vous savez pas?
Non, je n'en connais pas. Il en existe peut-être d'autres, mais je ne sais pas. On a voulu faire ça pour faire de la publicité pour le prix, etc. Mais surtout, on voulait suivre nos auteurs, quoi. Et de façon à ce qu'une fois, parce que c'est facile de décerner un prix, on décerne un prix et puis ça s'arrête là. On voulait quand même suivre nos auteurs, les faire se rencontrer, etc. Enfin, faire qu'il y ait autre chose qu'une démarche purement attributive. Et on a eu la chance aussi de, je pense à l'une de ces auteurs, Hélène Lally. C'est une auteure qui nous avait envoyé un manuscrit, par exemple, qu'on lui avait refusé. D'habitude, quand on envoie une lettre refus standard, de façon à éviter les discussions inutiles, avec elle, on s'est senti obligé de lui téléphoner pour lui expliquer pourquoi. Et on lui expliquait qu'on l'avait refusé, non pas parce que son manuscrit était médiocre, mais parce qu'au contraire, c'était le meilleur qu'on avait reçu. Manque de chance, c'était de la littérature générale et ça ne nous intéressait pas. Et on l'a encouragé à écrire, on lui a dit, la façon dont vous écrivez, si vous arrivez à nous ressortir un manuscrit relatif aux littératures de l'imaginaire, on serait content de l'avoir. Et ça l'a encouragé à écrire, elle était un peu découragée d'envoyer des manuscrits à des éditeurs. Et du coup, l'année suivante, elle nous a sorti un manuscrit de nouvelles, que nous avons publié l'année suivante et qui était excellent, quoi. Donc ça nous a permis quand même de permettre à des auteurs, découragés un petit peu par les réponses standards des éditeurs, de continuer à écrire. Et je pense qu'il en est de même pour les autres auteurs que nous avons sélectionnés.
Le prix s'appelle comment, là? Le prix de la Cour de l'Imaginaire, tout simplement?
Oui, alors il s'appelait le prix La Cour de l'Imaginaire, oui. Par référence aux éditions d'Acour. Donc maintenant, à partir de 2016, il va s'appeler tout simplement Imaginerea, quoi, évidemment. En référence aux éditions Nerea, quoi. Mmh. Mais le style, la procédure ne vont pas changer, quoi.
On raconte toujours, il y a toujours des histoires extraordinaires, d'ailleurs elles ont été publiées, des rapports entre les auteurs et leurs éditeurs, alors quelquefois ça donne des choses extraordinaires, du genre « si vous méditez pas, je viens vous exploser chez vous », ou des choses comme ça, c'est la même chose là dans vos échanges avec les auteurs?
Non, quand même pas. Mais on n'a jamais eu de problème avec les refus.
Oui.
Il faut dire, bon, on met les choses au point au départ, on n'est pas un atelier d'écriture. C'est-à-dire que tous les manuscrits qu'on a publiés des auteurs que j'ai cités, que ce soit Yvette Omerand, Brigitte Dujon, Éric Lusseux ou Sonia Kemner, on a fait des réécritures quand même. Ne serait-ce que des coupures, par exemple, quand il y avait des longueurs, etc., ou des choses un petit peu bizarres, on ne les a pas prises, disons, brutes de décoffrage. Mais c'était des manuscrits qui étaient publiables quand même. Mais ce qu'on reçoit aussi, quelquefois, c'est des choses totalement impubliables, où il faudrait un travail de réécriture intégrale. Cela, c'est pas notre affaire, on les refuse. Donc on envoie une lettre refus standard, on n'a jamais eu de problème jusqu'à présent, quoi.
Sacré boulot, hein, le boulot de relecture, de correction.
Ah oui, de lecture déjà au départ.
Oui.
Bon, maintenant, on commence à pratiquer ce que font les éditeurs, c'est-à-dire les lectures au pouce, quoi. C'est-à-dire qu'on lit les 30 premières pages. Si on voit que c'est vraiment en dessous du panier, on feuillette et on lit les 30 dernières et puis c'est terminé, quoi.
Ça s'appelle la lecture au pouce.
Oui, la lecture au pouce, quoi. Sinon, on persiste et on lit, bien sûr. Le travail du texte est un travail important. On veut obtenir quand même un manuscrit, un travail qui soit propre, c'est-à-dire éviter, bien sûr, les fautes d'orthographe, mais également les coquilles, etc. Donc c'est moi qui m'occupe de ce travail en général. C'est un travail très minutieux qui est assez ingrat. que je pratique pour mes ouvrages aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein.
Vous faites parler par quelqu'un d'autre?
Si. Je le fais relire par Josette. Et je me sers aussi maintenant d'un correcteur, qui est pas seulement orthographique, mais même un correcteur sémantique, linguistique.
Oui, il y a des bons logiciels, là.
Oui, il y a de bons logiciels. C'est fait par des Québécois, d'ailleurs, celui que j'utilise, d'ailleurs. Et qui est très intéressant pour ça. Et à la fin, pour le dernier travail, je relis le manuscrit en commençant par la fin. Et je remonte les pages en commençant par la dernière. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris par l'histoire. Surtout quand c'est son propre ouvrage, parce que bon, là, on le connaît par cœur. Et là, on voit des erreurs, des incohérences, des coquilles, etc. Et on finit par obtenir un manuscrit qui est propre. Mais le travail de correcteur chez un éditeur, c'est un travail. Il y a des gens qui sont payés pour ça, qui ne font que ça. Hein. C'est un travail spécifique chez les éditeurs sérieux de correcteurs de manuscrits. Ils le décortiquent, le tripotent, etc. C'est un travail considérable pour obtenir un manuscrit propre. Mais beaucoup d'éditeurs, même parmi les plus grands, ne le font plus. Et on trouve chez de grands éditeurs, dans des collections prestigieuses, des coquilles et des fautes d'orthographe. Ça nous est déjà arrivé de l'en en trouver. Je vais pas donner de nom parce que...
Mais, c'est pas l'objet d'émission.
des plus grands éditeurs, on trouve tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent pour payer des correcteurs, c'est tout. Hein. Mmh.
Cette manifestation de samedi, je rappelle qu'elle a lieu au Lézard, 99 Grand Rue à Nancy, samedi 7 novembre, cet après-demain de 16h30 à 18h30, est réalisée en partenariat avec RCN, bien sûr, avec les éditions Nerea, bien évidemment.